Blabla, blabla, blabla futile. Bienvenue sur Blabla futile.
Oui, alors je vais pas vous mentir, il y avait plusieurs directions possibles pour cet épisode. Comprendre, j'avais plusieurs idées, mais rien de finalisé. Et puis je suis tombé sur un tweet qui m'a agacé, donc j'ai retweeté en rajoutant une mention désagréable, pensant que ça suffirait à calmer mon agacement. En bref, le mécanisme de base de l'indignation numérique est inutile sur réseau social en deux étapes. Et puis le temps passant, l'agacement se dissipait pas, voire se transformait carrément en énervement. Et là, je commençais à me demander, mais comment me débarrasser de cet énervement, moi, tout seul, dans mon appartement, alors que j'ai personne à qui parler. Et c'est là que je me suis souvenu que j'avais un podcast maintenant. Ouais, je sais, c'est moche. Et c'est donc pour ça que l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de foot. Oui, je vous avoue que c'est un truc que moi non plus, je me serais jamais vu penser, écrire, dire, faire, mais bon. Hein, on vit dans une époque de merde, va falloir que collectivement, on se fasse à l'idée. Alors en préambule du passage sur le football, il est important de préciser que depuis le 1er juin, nous sommes rentrés dans ce que l'on appelle le Pride Month, à savoir le mois des fiertés. J'ai envie de dire homosexuel, mais je suis plus très sûr que ce soit le terme, puisque maintenant on parle de LGBTQIA+. Et je n'essaye pas d'être désagréable ou moqueur en disant ça, hein. C'est un vrai souci, parce que j'ai vraiment envie d'être respectueux de tout le monde. Mais je dois avouer que je patauge entre les nouveaux noms, les nouveaux adjectifs, les anciens qu'on requalifie, ceux qu'on se réapproprie. Il y a 3 jours, j'ai appris l'existence de la demi-sexualité. Je pensais qu'on me faisait une blague, en fait, même pas. Non, vraiment, hein, je bosse, j'essaie de me tenir à jour, mais bon, en même temps, j'essaie aussi d'apprendre l'espagnol sur Duolingo, du coup, il y a beaucoup d'informations qui se mélangent. Bref, ma vie n'est pas simple en ce moment. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on appelait, quand j'avais 18 ans, la journée de la Gay Pride, est devenu, au fur et à mesure du temps, le week-end de la Gay Pride, puis la semaine, et maintenant, le mois. Pourquoi? Eh bien, parce que LGBTQIA+, fatalement, il y a plus de monde, donc on a besoin de plus de jours. Voilà. Ou alors c'est le fameux lobby gay dont Zemmour et compagnie nous rabattent les oreilles à longueur de temps qui fait très bien son travail et dans quelques années on aura le Pride de trimestre. J'en sais rien. L'important à noter c'est que toutes les marques entreprises, ça va de Disney à Apple en passant par Google, Nike, le slip français ou le paysan breton, va à un moment ou à un autre du mois qui arrive nous mettre un petit drapeau aux couleurs arc-en-ciel dans leur communication, histoire de nous faire comprendre qu'ils nous aiment comme nous sommes et surtout n'oublions pas d'acheter leurs produits puisqu'ils sont si éthiques et ouverts d'esprit un mois dans l'année. À titre d'exemple, j'ai découvert aujourd'hui, et je dois vous avouer que ça m'a... perforé, hein, y a pas d'autre mot. Vraiment, si j'étais pas aussi énervé par le truc dont je vais vous parler, je pense que ça pourrait complètement être le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. En Autriche, Burger King a donc décidé de lancer, pour célébrer le Pride Month, le Pride Whopper, qui n'est ni plus ni moins qu'un Whopper, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf qu'il est entouré de 2 morceaux de pain burger identiques. Comprendre que si tu prends le Pride Burger Top, ton sandwich est encadré de 2 hauts de pain burger, la partie arrondie, bombée, moelleuse avec les graines de sésame, et si tu prends le Pride Burger Bottom, eh ben tu te retrouves avec un sandwich encadré par 2 bas de pain burger, à savoir la partie fade et sans intérêt du pain burger. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on valorise le top et on dévalorise le bottom, et je trouve ça, j'allais dire limite, mais non, c'est carrément homophobe. C'est même la base de l'homophobie, le reproche originel qu'on fait à l'homosexuel, l'exploration de sa pénétrabilité. Et je suis d'accord que je m'emballe un peu et que c'est juste un hamburger, mais j'avoue que me dire que parmi les têtes pensantes de Burger King Autriche, il y a un type qui s'est dit « on devrait faire ça, bonne idée », ça me trouve le cul. Donc, parmi les multiples marques, entreprises et institutions qui ont décidé de proclamer leur amour et leur soutien à la communauté LGBTQIA+, ce mois-ci, il y a donc la FIFA, Fédération Internationale de Football Association. Bon, je vous avoue que j'ai dû googliser parce que je ne savais pas trop en quoi consistait le A. Je pensais que moi j'étais parti sur amateur, mais en fait, non, c'est association. Ou association, je ne sais pas. Donc, la FIFA s'est fendue de ce tweet que je m'en vais vous traduire. Oui, parce que le tweet version française est édulcoré. Je pense que le community manager français s'est dit qu'on ne pouvait raisonnablement pas aller aussi loin dans un foutage de gueule. Donc la version internationale, en anglais, ça donne « Le mois des fiertés durant le mois de juin est la célébration de la communauté LGBTQIA+. Aujourd'hui est un jour de célébration au siège de la FIFA. » Oui, parce qu'ils ont décidé d'accrocher un drapeau gay sur la devanture du bâtiment de la FIFA à Zurich pendant tout le mois de juin. Parce qu'ils nous aiment tellement, rappelons-le. Donc le tweet continue. Découvrez-en plus, notamment la manière dont la FIFA travaille pour s'assurer que la Coupe du Monde au Qatar soit une célébration de l'unité et de la diversité, hashtag Pride 2022. Alors vous allez me dire, c'est bien, Ils veulent travailler pour célébrer l'unité et la diversité. Bah, c'est un peu comme la FFF qui, il y a 3 semaines, a fait porter à tous les joueurs de foot des maillots aux couleurs arc-en-ciel parce qu'ils nous aiment tellement. Je veux dire, c'est incroyable tant d'amour. Je ne sais pas vous, moi je me sens presque oppressé par tant de love, hein. Et c'est vrai, à la limite, je pourrais vous répondre oui, parce qu'après tout, c'est vrai que c'est bien, c'est mieux que l'inverse, hein. Sauf que ben, j'aurais plutôt tendance à répondre qu'il faudrait prévenir Abdullah Al-Ansari des projets de la FIFA. Parce que je pense qu'il n'a pas eu le mémo, lui. Alors vous allez me dire, mais qui est Abdullah Al-Ansari? Eh ben, c'est le responsable de la sécurité de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui a déclaré en avril, il n'y a donc pas si longtemps que ça, les spectateurs LGBT devront éviter de manifester des signes de leur appartenance sexuelle en public pour respecter la culture conservatrice de l'Émirat, où les démonstrations d'affection en public sont mal vues. Après, quelque chose me dit que si c'est Roberto qui roule une pelle à Bobonne, ça passe, mais bon. Si un supporter brandit un drapeau arc-en-ciel dans un stade et qu'on le lui enlève, ce ne sera pas parce qu'on veut l'offenser, mais le protéger. Si on ne le fait pas, un autre spectateur pourrait l'agresser. Si vous souhaitez manifester votre point de vue concernant la cause LGBT, faites-le dans une société où cela sera accepté. Alors moi, ce que j'ai envie de dire à Abdullah El Ansari, au cas où il m'entend, oh, après tout, on ne sait jamais, hein, on ne sait pas ce qui peut se passer, un malentendu est vite arrivé. Donc, Abdullah, bichon, loin de moi l'idée de parler au nom de l'intégralité de la communauté LGBTQIA+. C'est vrai que c'est compliqué en bouche, hein, ils ont pas tort. PD, c'était plus simple, ça sortait plus facilement. Pardon. Abdou, mon cochonou, je crois pouvoir affirmer qu'une personne homosexuelle, ou voyons large, queer, fan de foot et souhaitant se rendre à la Coupe du Monde, a probablement de lui-même, et probablement sans énormément de réflexion, et surtout sans attendre ta mise en garde, compris que débarquer en crop top, couleur arc-en-ciel, chaps en cuir et string à fermeture éclair au Qatar n'était pas une grande idée. Alors vous allez me dire, je caricature, mais je pense même pas. Je pense que Abdullah et le reste du comité d'organisation de la Coupe du Monde au Qatar, c'est probablement comme ça qu'ils visualisent le spectateur LGBT. Je pense même qu'ils doivent imaginer des trucs encore plus dingues, genre qu'ils vont se fister furieusement au milieu des tribunes en cas de victoire de leur équipe. Ce qui, rassurons-les, n'est jamais arrivé. Je veux dire, même dans nos sociétés décadentes. Non, vraiment, hein, personne ne fait ça. Si c'était le cas, ça se saurait. Je pense que ça ne serait pas passé inaperçu. Il y aurait au minimum une vidéo sur Pornhub. Et puis, tant bien même, je vais vous dire, moi, en tant que représentant de la lettre G dans l'acronyme LGBTQIA+, je ne valide pas, ne serait-ce que pour une simple notion d'hygiène. Alors, à leur décharge, je pense qu'ils se sont même rendu compte que Abdullah, bah, il y était allé un peu fort. Parce qu'il y en a un autre qui a pris la parole sur CNN. Là, je vais vous lire des infos que j'ai trouvées dans un article de SoFoot qui résume parfaitement le dossier. La personne qui parle s'appelle Nasser El-Kater, président du comité d'organisation du Mondial 2022. Et il explique que le Qatar et les pays voisins sont beaucoup plus conservateurs. Et là, SoFoot nous rappelle, et on les en remercie, qu'en temps normal, au Qatar, tout acte lié de près ou de loin à la communauté LGBT est sanctionnable d'une peine d'amende assortie à 7 années d'emprisonnement. Et, si tu es de confession musulmane, cadeau bonus, la peine de mort est appliquée. Dans ce contexte, un rien tendu, le dirigeant qatari s'est engagé à protéger les homosexuels assistant à la compétition et à hisser librement leur drapeau. Je cite, ils viendront au Qatar en tant que supporters et participants à un tournoi de football et pourront faire ce que tout autre être humain ferait. Trop mimes, tellement sympa. Ça, franchement, c'est la célébration de l'unité et de la diversité. Mais, bah oui, hein, évidemment, il y a un mais. Le président du comité d'organisation a rappelé que l'homosexualité n'est pas autorisée dans l'Émirat et a donc soumis la présence des personnes LGBT à une condition. Les démonstrations publiques d'affection sont désapprouvées et cela s'applique à tout le monde. Donc, pour être sûr que les PD, pardon, les spectateurs LGBT ne se touchent pas, personne n'aura le droit de se toucher. Et moi, je dis, pourquoi pas? Non, il faut admettre que c'est égalitaire. Répressivement égalitaire, mais égalitaire tout de même. En plus, ça se passe en novembre, ce truc-là. Donc d'ici là, le Covid aura peut-être fait un comeback. C'est peut-être pas plus mal que personne ne se tripote. Enfin, Nasser Al-Kater a également précisé, je cite, les gens doivent également reconnaître les responsabilités que le Qatar a prises pour progresser, pour promulguer des lois, pour protéger les droits des travailleurs et leur bien-être. Parce que évidemment, le problème de la Coupe du Monde au Qatar, c'est pas juste le droit des homosexuels. Hein, il y a également le droit des femmes, ou plus globalement, des droits de l'homme, en général. Puisqu'il y a des milliers de travailleurs, pardon, d'esclaves, qui sont morts pour construire des stades climatisés. Parce que c'est probablement là le truc le plus con de toute cette affaire, c'est que tout ce bordel, c'est pour organiser une coupe du monde de football dans un pays où on ne peut pas jouer au football parce qu'il fait trop chaud, même en novembre. Je pense qu'on peut difficilement faire plus con. Si, bien sûr. On peut organiser les Jeux Olympiques d'hiver en Chine dans des endroits où il n'y a pas de neige. Parce que CIO, FIFA, même combat, hein. C'est bien ça, moi je trouve qu'ils devaient se réunir et créer une nouvelle organisation, le OIDTTC, l'Organisation Internationale des Trous du Cul. Donc, tout ça pour dire, messieurs et mesdames de la FIFA, vous avez décidé de donner la Coupe du Monde au Qatar. C'est votre droit, il y a certainement de bonnes raisons. Bon, à l'œil nu, j'en trouve pas, mais il doit en avoir. Par contre, si vous pouviez éviter d'essayer de vous refaire la cerise en collant des drapeaux arc-en-ciel sur vos bâtiments ou sur Twitter, j'apprécierais. Hein, je pense que je ne suis pas le seul. Moi, j'appellerais ça la décence. Après, on a le droit de ne pas être d'accord sur les termes. Et là, on va arriver au truc que je ne comprends vraiment pas. Mais alors, vraiment pas, et depuis des années, c'est comment les vrais fans de foot, les vrais passionnés, peuvent tolérer que leur sport, l'amour de leur vie, la lumière de leur phare, leur religion païenne, soient dirigés par une telle bande de trous du cul. Parce que ça n'a pas commencé avec la Coupe du Monde au Qatar, non. Exemple. Le Brésil avait mis en place depuis 2003 une loi pour régler les problèmes de violence dans ou à proximité des stades liés à la consommation d'alcool. La FIFA, attribuant la Coupe du Monde au Brésil en 2014, n'était pas très joyeuse de l'existence de cette loi. Le numéro 2 de la FIFA, un certain Jérôme Valqueux, allant même jusqu'à déclarer, je cite, les boissons alcoolisées font partie de la Coupe du Monde de la FIFA et nous les aurons. Excusez-moi si j'ai l'air arrogant, mais c'est quelque chose que nous ne négocierons pas. Le fait que nous ayons le droit de vendre de la bière doit faire partie de la loi. Les autorités brésiliennes font donc sauter la loi pour la durée de la Coupe du Monde, et ce qui devait arriver arriva. Ça commence à être le bordel dans certains stades à cause de la consommation d'alcool. Et là, le même Jérôme Valqueux de déclarer à la télé, je cite, être impressionné et préoccupé par le niveau d'ébriété des supporters. Parce que visiblement, le numéro 2 de la FIFA a découvert un truc en 2014, les mecs qui aiment le foot boivent de la bière. Voilà, moi j'appelle ça un bon gros trou du cul. Et là, je parle de trucs dont je suis au courant, moi, qui n'en ai absolument rien à brayer du football. Bon, je vous cache pas que j'ai dû faire des recherches pour m'assurer que mes souvenirs étaient bien conformes à la réalité et pour trouver des détails, des dates précises. Mais si moi, je suis au courant, on est d'accord que le fan de foot, le vrai, il doit être au courant de tout ça, voire de trucs encore plus dingues, et que ça ne l'énerve pas. Il fait comment? Moi, rien que le truc des droits de diffusion, ça me ferait monter au plafond. Alors, je sais, hein, là, on parle de la FFF et plus de la FIFA, mais bon, au niveau du système digestif humain, je pense qu'on doit se trouver à peu près dans la même zone, pas loin de la sortie. C'est quand même des types qui sont prêts à vendre les droits de retransmission de leur match à littéralement n'importe qui pourvu qu'ils payent plus que le précédent en se foutant complètement des conséquences pour le public des 10 matchs. On est passé de Canal+, un abonnement, à beIN Sport, un autre abonnement, à SFR, là on est carrément sur un opérateur téléphonique, et puis après c'est carrément juste des Italiens qui passaient par là et qui ont dit « vous en faites pas, à trouver un truc pour diffuser les matchs ». Et rien à battre, les mecs ils encaissent le chèque. Et pas un pour se dire « mais les gens qui n'ont pas les moyens pour suivre les matchs, ils font comment? Non, parce que le football, c'est quand même un sport populaire. Enfin, c'est comme ça qu'on le vend. Pardon, qu'on en fait la promotion, non? Il n'y a pas un souci. Je pense que s'il y en a eu un pour se poser la question, on a dû lui répondre en substance « mais t'inquiète, ils ont regardé ça dans les bars, c'est cool, comme ça on pourra leur vendre de la bière ». Voilà, vendre de la bière, c'est la seule explication que je trouve à ce marasme. Et je jette un voile pudique sur tout ce qui est Ligue 1, Conforama, tout ça, tout ça, hein. Alors, on est d'accord qu'on est dans un système capitaliste et que je ne découvre pas la non-existence du Père Noël là maintenant tout de suite, mais vu le nombre de personnes qui nous pompent l'air à longueur d'année avec le football, on devrait quand même trouver un petit groupe de personnes un peu mieux charpentées intellectuellement pour gérer tout ça de manière un peu plus... Pardon, hein, je vais utiliser un grand mot. Éthique. Et tant que je suis sur la FFF et que je me sens en jambes, je me permets de passer rapidement sur l'affaire Idrissa Gueye. Alors... Déjà, un joueur, un seul, pour refuser de porter un maillot aux couleurs LGBT, le mec s'appelle Gay. Oui, je sais que ça s'écrit pas pareil, mais quand même. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais moi je trouve que ce type avait tout à fait le droit de ne pas jouer ce match pour ne pas porter ce maillot. Non, parce qu'en vrai, ce n'est pas illégal d'être homophobe. Ce qui est illégal, c'est agir de manière homophobe. Insulter, harceler, agresser, tuer des homosexuels, ça c'est interdit. En France, hein, au Qatar, confère si précédemment. Et ce fameux maillot, il voulait pas dire autre chose finalement. C'est pas une propagande virulente pour les droits des LGBT. Hein. On leur a pas demandé de partager leur vestiaire avec une équipe de joueurs homosexuels ou pire, de leur faire des câlins. Non, juste de porter un maillot qui voulait dire « les homosexuels, ils ont le droit de vivre en paix ». Si on considère que ça, c'est un message politique insoutenable, Mais une fois de plus, il avait le droit de ne pas vouloir porter ce maillot. La question aurait dû se régler entre lui et les dirigeants de son équipe. Tiens, le Qatar, encore, désinément. Mais par le même principe, on a le droit de signifier à M. Gay, poliment et respectueusement bien sûr, que refuser de porter ce maillot, ben c'est une démarche homophobe, résolument et sans discussion possible. Parce qu'on parle de quoi ? Porter un maillot aux couleurs vaguement arc-en-ciel pendant une journée ? Pardon, 90 minutes, 110 en cas de prolongation, 120 si on va jusqu'au tir au but ? C'est rien comparé à une saison footballistique. Et pour que ce rien soit si insoutenable pour lui, c'est qu'il doit avoir un sérieux problème avec la question homosexuelle. Et une fois de plus, aussi désagréable que ce soit à dire pour les bisounours de mon genre, on a le droit, en son fort intérieur, d'être homophobe. À partir du moment où tu fermes ta gueule et que tu fais chier personne, personne ne vient te faire chier. Et faut pas se leurrer, hein. Le gars n'est pas le seul homophobe sur les terrains de football en Ligue 1. Il y en a probablement un paquet d'autres qui ont juste fermé leur gueule et qui ont pris cette histoire de maillot arc-en-ciel exactement pour ce qu'elle est réellement, à savoir un gimmick, le niveau zéro du message politique, un vague happening d'un soir pour se donner bonne conscience de fermer les yeux les 364 autres jours et que ça valait pas la peine de chercher les emmerdes pour si peu. Au final, le seul truc que ça m'apprend, cette histoire, c'est que dans le staff du PSG, il y a probablement un homosexuel qui est bien vénère et qui a décidé de liker l'affaire. Et s'il existe vraiment ce gars-là, je lui souhaite bien du courage. Mais le vrai scandale de l'affaire Idrissa Gueye et du boucan médiatique qu'elle a suscité, c'est qu'elle a passé quasi sous silence un acte bien plus important. Jack Daniels, je parle pas de la bouteille d'alcool, mais d'un être humain, 17 ans, joueur de deuxième division anglaise qui fait son coming out, faisant de lui le premier footballeur européen en activité ouvertement gay. Courage incroyable, le même dont Josh Cavallo, un joueur australien, avait fait preuve quelques semaines plus tôt en faisant lui aussi son coming out en plein début de carrière. Mais en vrai, c'est ces noms-là dont on devrait parler, bien plus que celui d'un type qui pense que des couleurs sur un t-shirt peuvent altérer sa moralité ou sa virilité. Et on peut ajouter les noms de Greg Napier et Lloyd Wilson, deux arbitres écossais en fonction qui font eux aussi leur coming out, et je suis pas loin de penser qu'un coming out d'arbitre est presque plus couillu. Parce que autant les joueurs de foot, on est censé les aimer, autant les arbitres... Alors par contre, je ne parlerai pas des événements du Stade de France dont on nous rabat les oreilles depuis plus d'une semaine. Je trouve ça juste hallucinant qu'à aucun moment il n'y ait pas quelqu'un pour parler du comportement des supporters, reconnaître qu'ils sont parfois un tantinet excessif et ingérable. Parce que je peux comprendre qu'on soit passionné, hein, qu'on soit fan. Mais bon, ça n'excuse pas tout. Enfin, je veux dire, moi quand je sors d'un concert de Kylie Minogue, je grimpe pas dans ma voiture pour faire le tour des avenues de Paris en klaxonnant, vitres grandes ouvertes et Your Disco Needs You à fond dans l'autoradio, en hurlant et en tenant par la fenêtre à bout de bras un drapeau arc-en-ciel. De la même manière, si je suis pas content de ce qui se passe sur scène lors d'un concert de Madonna, je n'envahis pas la scène pour autant, je balance pas des fumigènes et des bombes agricoles, ni la chope par le bras pour lui dire « Dis donc ma grosse, tu vas nous faire chier longtemps avec tes nouvelles chansons que plus personne n'écoute ? Nous, on est venus pour les classiques, alors t'arrêtes tes conneries de one-two cha-cha-cha et tu nous fais péter du La Isla Bonita et du Holiday, pronto !» Non, hein, on ne fait pas ça, on sait se tenir. Alors, bien sûr, je sais qu'on ne peut pas comparer, que dans le foot, il y a une notion de compétition, donc de stress, de suspense, qui crée une ferveur, et puis qu'il y a aussi l'effet de groupe. Et puis, on va pas se mentir, un vieux relent de machisme, un virilisme sous-jacent, un rien performatif. Alors, je dis pas qu'il faut se dresser seul, raide comme la justice, face à une tribune du Parc des Princes et hurler telle Sandrine Rousseau, mais déconstruisez-vous un peu, bordel ! Mais en même temps, un petit peu, bah, ça leur ferait peut-être pas de mal. Et j'ai conscience d'être un rien caricatural. Parce que oui, je déteste le foot. Probablement parce que je suis tombé dans une famille de fanas de foot et qu'on m'a forcé à en faire pendant plus de 2 ans, alors que j'étais nul à chier, que ça m'intéressait pas et que je ne comprenais rien. Enfin si, hein, bien sûr, j'avais compris qu'il fallait mettre le ballon dans le but adverse, je suis pas complètement con. Mais bon, j'étais arrière, donc inutile de vous dire que le but adverse, je l'ai jamais vu de près. Et puis les règles du corner, du hors-jeu, j'ai jamais rien compris. Et puis cette idée qu'il faut jouer même quand il pleut, c'est absurde. Enfin bref, c'était horrible. Mais pour autant, je peux tout à fait imaginer sortir du cliché, notamment parce que j'ai une mère fan de foot, qui continue encore aujourd'hui, à 75 ans passés, de hurler devant sa télé quand le PSG ou l'équipe de France joue, qui est allée au Stade de France à la finale de 98, a enchaîné avec les Champs-Élysées et rentré à 5h30 du matin avant de retourner le lendemain sur les Champs pour la descente du bus. Et ma mère est beaucoup de choses, mais ce n'est définitivement pas un gros beauf aviné à la bière. Donc, c'est possible. De la même manière, je peux tout à fait admettre qu'un match de foot peut être un événement prenant. Je me souviens qu'une fois, un pote m'avait traîné à un match du PSG pour me prouver à quel point je me fourvoyais sur le foot en général. Et je dois bien admettre que quand j'avais pas d'autre choix que de me concentrer sur ce qui se passait sur le terrain, notamment parce que j'étais pétrifié par les gens qui m'entouraient, notamment ce type derrière moi, les cuisses exagérément écartées, qui hurlait toutes les 5 secondes « Mais c'est pas comme ça qu'on joue au foot, les gars !» Ben dans ces moments-là, un match de foot, ça peut s'avérer prenant. et les footballeurs peuvent faire preuve d'une adresse, d'une agilité, d'une précision et d'une dextérité folle, impressionnante. À savoir bien plus que ce rôle d'idiot courant bêtement derrière un ballon auquel je les avais assignés pendant des années. Et oui, j'admets que le foot peut provoquer des émotions, que moi-même j'en ai eu. La victoire de 98, elle était belle, elle était émouvante, parce que personne ne croyait en cette équipe. Tout le monde disait qu'ils étaient là que parce qu'ils avaient été qualifiés d'office. Et je dois bien l'admettre, et ça ne sort pas d'ici, hein, j'ai une réputation à tenir, que j'ai eu l'œil humide quand la France a gagné la dernière fois. Pas parce qu'on avait gagné la Coupe du Monde, ça je m'en branle, mais parce que je me souvenais des larmes de Griezmann lors de leur élimination au Brésil 4 années plus tôt, et qu'à cette époque-là, devant ma télé, ému devant la détresse de ce jeune homme, je lui avais dit, télépathiquement, « T'inquiète, petit gars, la prochaine fois, t'iras plus loin. » Et ils avaient réussi ça, justement, à aller plus loin, et c'était ça qui était beau. Et la prochaine Coupe du Monde, la fameuse, bah écoutez, au jour d'aujourd'hui, ce que je trouverais beau, c'est qu'elle n'ait pas lieu. Que les joueurs décident que toutes ces absurdités n'avaient pas lieu d'être, qu'ils déclarent tous forfait et qu'ils décident de faire leur Coupe du Monde entre eux, sur un terrain vague anonyme, avec des sacs à dos pour faire des buts, sans sponsor, sans trou du cul pour prendre des décisions, sans public, juste pour la beauté du geste. Ça, ça aurait de la gueule. Ouais, je sais, le mec s'emballe, donne dans le lyrisme. Mais bon, on peut rêver, non? De toute façon, c'est pas près d'arriver. Ben non, hein, ils vont la jouer, leur Coupe du Monde, puis ma mère gueulera devant sa télé, la FIFA mettra un drapeau arc-en-ciel dans un coin en mode « venez comme vous êtes » pour se donner bonne conscience, et puis on vendra de la bière, beaucoup, probablement. D'ailleurs, on a le droit de boire de la bière au Qatar ?